Je sous-signé déclare, par Jacques Futrel. Je n'eus d'elle qu'une vision fugitive à son passage devant la porte entrebâillée de ma chambre, tandis qu'elle se hâtait le long du couloir brillamment éclairé. C'était une jeune femme, et pourtant quel visage! Sur lui, plus aucun signe de jeunesse, et je me demandais si sa jeunesse avait pu en être à ce point arrachée par la main implacable de la douleur. Mais le visage restait beau, de la beauté froide, impersonnelle, du marbre. Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes, ses yeux noirs, très grands. Et en ce bref instant, j'ai lu quelque chose comme de la peur et même de l'horreur. Les bouclettes qui s'échappaient de son élégant petit chapeau, le voile mince et la pâleur de son visage lui donnaient un aspect surnaturel, un peu celui d'une sorcière. Depuis 10 minutes, peut-être un quart d'heure, je me tenais debout près de ma fenêtre ouverte d'où l'on pouvait voir les toits des immeubles environnants. Je sentais le besoin de respirer l'air vivifiant, frais et salé qui maintenant arrivait de la mer. Je ne me trouvais certainement pas dans ma chambre depuis plus longtemps et je n'avais même pas allumé la lumière en entrant, car j'étais allé directement à la fenêtre, l'avais ouverte et étais demeuré debout dans le noir. Depuis quelques semaines, j'étais assez souffrant. Un genre de dépression nerveuse plutôt ridicule. J'avais toujours été un grand nerveux, mais ces temps derniers, je souffrais constamment d'étourdissements, le sang me battait dans les oreilles, et fait étrange, je ressentais des élancements douloureux dans la tête. Par moments, il me rendait fou. La brise qui arrivait par la fenêtre était fraîche, douce, et bientôt, je ne fis plus attention à l'atmosphère. Je ne fis plus attention à l'atmosphère accablante de la pièce. Mes atroces névralgies avaient presque complètement cessé. Je me tenais donc là, debout, depuis 10 minutes, ou un quart d'heure, à regarder dans le vague, au-delà des toits sombres, inégaux, qui s'étageaient au-dessous de moi. Peut-être connaissez-vous la fascination qu'exerce un unique point lumineux dans les ténèbres. Peut-être savez-vous combien il captive l'attention. Eh bien, au bout d'un petit moment, je remarquais justement pareil point brillant, une espèce de lueur sur la terrasse de l'immeuble voisin. Je crus tout d'abord qu'il s'agissait du reflet, sur un petit morceau de verre, d'une fenêtre allumée de l'hôtel où j'habitais. Sans autre raison que le scintillement de ce petit point lumineux, je continuai à fixer l'endroit où il se trouvait, et après un instant, ce point sembla se transformer en un objet précis, un revolver. Cette pensée m'étonna quelque peu. Un revolver. Plus je regardais et plus j'en étais certain. La lumière m'était renvoyée par le petit canon nickelé qui sembla se dessiner de plus en plus nettement au fur et à mesure de mon guet. Peut-être 1 minute s'écoula-t-elle encore quand une trappe qui donnait sur la terrasse s'ouvrit tout à coup. La tête et les épaules d'un homme apparurent. Il avait une petite lampe électrique de poche dont il promena les rayons ici et là à la recherche de quelque chose. Finalement, il mit pied sur le gravier de la terrasse et demeura un moment immobile, puis fit le tour du toit. Il s'arrêta à l'endroit où j'avais aperçu le point brillant et ramassa le revolver. Je savais déjà que c'était un revolver et pourtant, lorsque l'homme le prit dans sa main, une sorte de frisson me secoua. Il braqua sa lampe sur l'arme et l'examina. Cependant que moi, de ma fenêtre, située à 10 mètres de là, caché par l'obscurité, je le regardais avec un intérêt aussi intense que le sien. C'était une arme singulière, petite, robuste, au canon plutôt gros. En vérité, il semblait avoir 2 canons, l'un par-dessus l'autre. Son aspect général n'était pas loin de rappeler un pistolet de l'ancien temps. Au bout d'un moment, l'homme redescendit par la trappe et l'obscurité enveloppa de nouveau le toit. Le point brillant s'était évanoui. Ceci s'était passé avant que je visse la jeune femme dans le couloir. Je ne sais pas au juste combien de minutes s'écoulèrent avant que ma rêverie fût rompue par le bruit de ses pas vifs. Son arrivée, elle aussi, m'étonna quelque peu. Je crois que c'est parce que le bruit semblait être tellement proche, presque dans ma chambre. Je me retournai tout d'une pièce. Ma porte était entr'ouverte, je ne m'en étais pas aperçu, et je décidai de la fermer. C'est alors que la femme passa rapidement dans le couloir brillamment éclairé. Je ne la vis que brièvement, mais je notai tous les détails de son visage, sa pâleur mortelle, ses grands yeux sombres, terrifiés. Je ne restais certainement pas plus d'une minute à contempler l'endroit où elle avait été. Puis, par simple curiosité ou peut-être, à cause des manières furtives de la femme et de l'étrangeté de son visage, j'allais à la porte et regardais dehors. C'était un couloir rectiligne, mais elle n'était plus en vue. J'en conclus qu'elle était entrée dans l'une des chambres. Je ne pouvais deviner laquelle et de plus, ce n'était pas mon affaire. Il n'était que minuit, il n'y avait en somme rien de surprenant à ce qu'elle se trouvât là. Le fait de n'avoir pas entendu de porte s'ouvrir et se refermer n'avait rien de concluant. Pourtant, je continuais à me demander dans quelle chambre elle était entrée. J'allais pousser ma porte et allumer la lumière lorsque j'entendis le bruit assourdi d'un coup de feu. Car c'était un coup de feu, indubitablement. Il provenait de l'extrémité du couloir vers laquelle s'était dirigée la femme. Pendant un moment, je restais sur place, l'oreille tendue. Mais seulement un moment. Puis j'ouvris brusquement ma porte et sortis en courant. Je ne sais exactement où j'avais l'intention d'aller, ni ce que j'allais y faire. Néanmoins, l'occurrence s'accorda avec ma décision. La porte de la chambre 666 s'ouvrit avec violence, je la reçus presque dans la figure, et la femme en sortit. Elle hésita à ma vue. « Qu'y a-t-il » demandai-je. « Que s'est-il passé ?» Elle ne répondit pas et essaya de me contourner en courant. Instinctivement, j'étendis mes deux mains pour l'arrêter et réussis à attraper un de ses poignets. Sa main glissa dans la mienne comme un serpent. Je fus repoussé en arrière, trébuchai et allai m'adosser au mur. Lorsque je me redressais, la femme disparaissait dans les escaliers. Je n'essayais pas de courir après elle, mais je rentrai dans ma chambre, trois portes plus loin, et téléphonai au bureau de l'hôtel. « Quelqu'un a été assassiné dans la chambre 666 », dis-je à la standardiste. « C'est une femme qui a tiré. J'ai essayé de l'arrêter, mais elle s'est débarrassée de moi et est descendue en courant les escaliers. Elle est encore dans l'hôtel, ne la laissez pas échapper. » Et puis, pendant un moment, je ne sais exactement ce qui se passa. Je me souviens d'affreuses névralgies, sans doute à cause de tout ce drame, ainsi que d'une faiblesse soudaine dans mes jambes. Peut-être suis-je tombé, je n'en sais trop rien. Un laps de temps assez court, sans doute, a dû s'écouler, mais j'entendis la porte de l'ascenseur s'ouvrir et un bruit de pas précipité dans le couloir. J'ouvris les yeux et vis le détective de l'hôtel, accompagné de Verbeck, le gardien de nuit, d'un policeman en uniforme, et de deux gros malaires terriblement effrayés. « Avez-vous attrapé la femme ? » demandai-je. J'étais à un point de surexcitation extrême, mais j'essayais de rester calme. « Non, c'est Garonne, le détective de l'hôtel, qui me répondit. « Est-ce vous qui avez téléphoné au bureau ?»« Oui. » Garonne me regarda curieusement. C'était un homme, grand, mince, aux yeux profondément enfoncés dans leurs orbites, au visage de furet. Brusquement, il se dirigea vers la chambre 666, suivi de nous tous. La porte était grande ouverte, et nous attendîmes tous sur le pas de la porte qu'il alluma la lumière. Son geste inonda soudain la pièce d'une lumière crue. Ce que je vis me fit tressaillir en dépit de mes efforts pour rester calme. Un homme était étendu sur le sol, face contre terre, sa main droite dirigée vers nous, étreignant un revolver. Mais ce qui me fait pousser un cri fut la vue d'une tache rouge foncée et d'une coulée de sang à travers la chambre. C'était comme si l'homme, une fois blessé, s'était traîné sur le plancher. Peut-être avait-il essayé d'atteindre la porte, ou le téléphone proche de cette dernière. « Y a-t-il mort ?» demanda le policeman. Aaron s'était agenouillé à côté de l'homme et avait mis son oreille contre son cœur. « Tout ce qu'il y a de mort, » dit-il brutalement. Le policeman l'aida à retourner le corps. Je regardais le visage maintenant visible et criai de nouveau. Je serais tombé si Verbeck n'avait pas été là pour me soutenir. « Le connaissez-vous, Mr. Meredith ?» demanda Garonne brusquement. « Oui, oui, je le connais, » répondis-je à Garonne au bout d'un moment. « C'est Frank Spencer. Je le connais depuis des années, c'est un vieil ami à moi. » « Saviez-vous qu'il habitait dans cet hôtel ?» Les yeux creux de Garonne plongeaient dans les miens, avec une intensité qui brusquement souleva en moi une inexplicable colère. J'avais l'impression que ces questions m'accusaient. « Pourquoi me demandez-vous ça ? » m'écriai-je. « Si c'était un de vos vieux amis, et que vous sachiez qu'il habitait ici, vous auriez certainement connu le numéro de sa chambre, » expliqua patiemment Garonne. Vous avez téléphoné en bas pour dire que quelqu'un avait été assassiné dans la chambre 666. Vous n'avez pas mentionné le nom de Mr. Spencer. Dois-je en conclure que vous ne saviez pas qu'il y demeurait ?
Non, non, je ne le savais pas.
J'hésitais devant la menace qui perçait dans la voix de Garonne. Je ne le savais pas, vous dis-je. Garonne s'adressa au gardien de nuit. Depuis combien de temps Mr. Spencer habitait-il ici, M. Verbeck ?
Depuis bientôt une semaine,
répondit l'interpellé. En fait, continua Garonne, il n'y a pas eu de client à cet étage durant ces 3 ou 4 derniers jours, à l'exception de M. Meredith et de M. Spencer.
Exact.
Et certainement pas de femme. Verbeck secoua négativement la tête.
Mais c'était une femme, insistai-je. Je l'ai vue.
Si vous aviez pris la précaution de faire garder toutes les issues pour être certain qu'elle ne s'échappât de l'hôtel, au lieu d'accourir ici, où vous ne pouvez rien pour le mort, vous auriez eu des chances de l'attraper. Si la femme se trouvait dans l'hôtel lorsque vous avez téléphoné au bureau, alors elle n'a pu s'enfuir. Garonne était absolument affirmatif.
Chaque issue est gardée. On ne lui permettra pas de sortir.
Si elle se trouvait dans l'hôtel, répétais-je, je vous dis qu'elle y était, je l'ai vue. Pendant tout ce temps, Garonne était demeuré à genoux auprès du mort. Il se leva et dit quelque chose au policeman, puis il se retourna et me regarda fixement, ce que je n'appréciais guère. J'étais sur le point de protester lorsqu'il me parla plutôt gentiment.
« Je sais que vous venez d'être malade,
Monsieur Meredith, et toutes ces émotions ont été trop fortes pour vous. Vous devriez aller dans votre chambre, et si vous y avez une bouteille, n'hésitez pas. Vous avez besoin d'un bon remontant. Vous êtes blanc comme un linge. » Verbeck m'aida à réintégrer ma chambre. Ce n'est qu'un moment plus tard que Garonne frappa à ma porte et entra. Je venais de prendre une de mes poudres pour maux de tête et j'étais tout à fait calme. Mes douleurs avaient presque complètement cessé.
« La femme ? » demandai-je. « L'ont-ils attrapée ?»
Il fit non de la tête. « Aucune femme n'a quitté l'hôtel depuis que vous avez téléphoné au bureau. Si elle est là, elle sera prise. Vous pouvez en être sûr. » J'aimerais bien que vous me donniez le signalement de cette femme, si possible, et tout ce que vous pouvez savoir d'autre sur cette affaire. Je lui relatai franchement tout ce que je déclarais plus haut, sans omettre le détail qui apparemment n'avait aucun lien avec le reste de l'homme ramassant le revolver sur le toit de l'immeuble voisin. Je lui donnai une description détaillée de la femme. « Vous n'aviez pas allumé l'électricité lorsque vous êtes entré dans votre chambre et vous en aviez laissé la porte ouverte ?»«
Je n'ai pas laissé la porte ouverte, corrigeai-je. Je me souviens fort bien que je l'ai fermée derrière moi. Elle a dû se rouvrir. »
Il se leva, ouvrit la porte, puis la referma avec désinvolture. Le loquet ne fonctionna pas. La porte tourna sur ses gonds et se rouvrit. Cet incident, quoique banal, me fit tressaillir de satisfaction.
« Pourquoi n'avez-vous pas allumé ? »
demanda-t-il en se rasseyant. Il faisait chaud et la chambre sentait le renfermer. Je me sentais souffrant et ma seule pensée fut d'aller ouvrir la fenêtre.
« Lorsque vous avez téléphoné au standard, vous avez bien dit que quelqu'un avait été assassiné au 666, c'est bien ce que vous avez déclaré »
demanda-t-il.
« Oui. » « Vous avez bien dit assassiné. »
« Autant que je m'en souvienne, c'est ce que j'ai dit.
Pourquoi ?»« J'avais entendu le coup de feu, j'avais vu la femme, sa tentative de fuite, et naturellement, ma première pensée fut qu'il s'agissait d'un meurtre. »
« Expliquai-je. J'ai été très énervé lorsque je suis allé au téléphone et j'ai employé les premiers mots qui me sont venus à l'esprit. »
« Mais vous ne saviez pas qu'il y avait eu crime ?»«
Non, je ne le savais pas. »«
Vous dites que vous avez entendu un coup de feu. »«
Est-ce que par hasard vous n'en auriez pas entendu deux ?»«
Un seul. »« En a-t-on tiré plus d'un ?»«
Au moins deux. » Une balle a pénétré dans le dos de Spencer juste sous le cœur. L'autre est allé s'écraser dans la boiserie de la porte. Il me regarda pendant un instant.
« La balle qui s'est enfoncée dans la boiserie provient du revolver de Spencer. »
Celui qu'il tenait lorsque nous l'avons trouvé. Mais les deux balles ont pu être tirées en même temps,
suggérai-je. Il n'y aurait eu alors que le bruit d'un seul coup de feu.
Si elles avaient été tirées en même temps, Spencer aurait dû se trouver le dos tourné à la personne qui l'a tué, et par conséquent, il aurait tiré dans la direction opposée.
Je commençais à comprendre où il voulait en arriver.
Donc, un des coups a été forcément tiré après l'autre,
continua-t-il patiemment.
Vous me suivez, n'est-ce pas ?
« Je n'ai entendu qu'un seul coup de feu, »
insistai-je.
Soudain, le ton de Garonne changea.
« Vous avez dit n'être pas entré dans la chambre 666 entre le moment où vous avez entendu le coup de feu et celui où je suis arrivé en haut. »«
Non, »
affirmai-je. « Et vous n'avez même pas touché Spencer du doigt lorsque nous l'avons trouvé. »«
Non. »«
Ne savez-vous non pas, » continua-t-il impitoyablement, «
Ne savez-vous donc pas qu'il n'y a pas de femme mêlée à cette affaire ? La question me fit bondir sur mes pieds et je restai un moment debout, vacillant légèrement. Une rage aveugle s'empara soudain de moi. J'essayai de parler sans y parvenir. « Quel motif aviez-vous pour assassiner Spencer ?» demanda Garonne. « Vous m'accusez du meurtre ?» J'avais enfin retrouvé la voix. « Pourquoi croyez-vous que j'ai votre main ?» L'index de Garonne s'était pointé sur elle. « Le revers de votre main est couvert de sang. » « Je l'ai remarqué lorsque vous êtes venu à notre rencontre, à la porte, au moment où nous sommes arrivés à l'étage. Dans la chambre de Spencer, je l'ai fait observer au policeman. » Je regardais ma main droite, frappée de stupeur. Du sang, oui, une grosse tache. Comment était-elle là? Comment y avait-elle été depuis tout ce temps sans que personne ne s'en soit aperçu à l'exception de Garonne? Pendant longtemps, je ne me souvins de rien. Lorsqu'une espèce de demi-conscience me revint, il me sembla que je voyais un long et étroit passage bordé de chaque côté par des barreaux de fer, et au bout, une chaise. Lorsque j'ouvris les yeux, un docteur était assis à côté de mon lit. Quelques minutes plus tard, j'étais arrêté sous l'inculpation du meurtre de Frank Spencer. Le jour suivant, un avocat vint me voir dans ma cellule. Il avait été un vieil ami de mon père. Il me trouva debout devant le minuscule lavabo, occupé à frotter le revers de ma main droite. Il me posa une grande quantité de questions qui n'avaient rien à voir avec le meurtre et pendant tout ce temps, il n'arrêta pas de scruter mon visage, mes yeux, avec un air de profonde perplexité. « Je crois qu'il vaut mieux que vous sachiez, » dit-il finalement, « que le revolver dont vous vous êtes servi, celui avec lequel Spencer a été tué, a été retrouvé sous le toit de l'immeuble voisin de votre hôtel. Oui, j'ai dit à Garonne que j'avais vu un homme en ramasser un là. Il a été lancé d'une fenêtre de l'hôtel, » insista-t-il. La personne qui occupait la chambre, directement sous l'endroit où le revolver est tombé, a entendu le bruit de la chute. Elle a cru que quelqu'un essayait de forcer la trappe du toit. Aussi s'est-elle habillée et est-elle montée sur le toit pour faire des recherches. Elle a trouvé l'arme, un silencieux, de la marque Maxime. Il s'arrêta un moment, sans doute pour attendre ma réaction. Il ressemblait à un ancien pistolet. Sa partie inférieure, qui ressemble à un canon, est un silencieux. Oui, je sais. Garonne l'a remis à la police et celle-ci a réussi à mettre la main sur un homme qui affirme l'avoir vendu. Il est prêt à jurer qu'il vous l'a vendu et que vous l'avez payé avec un chèque. S'il avait cru m'étonner avec cette accusation, il dut être désappointé. Garonne avait dit que l'on avait tiré deux coups de feu dans la chambre 666. Si l'un des coups avait été tiré avec un revolver muni d'un silencieux, je n'avais pu évidemment n'en entendre qu'un seul. En un sens, c'était un point d'acquis en ma faveur. « Mon garçon, » reprit l'avocat au bout d'un long moment, « je vous connais depuis votre plus tendre enfance. Vous avez toujours été maladif, nerveux, pas normal. » Je vous ai vu grandir et devenir un homme avec une peur atroce de ce qui allait arriver. Et c'est arrivé. Votre mère est morte dans un asile d'aliénés. Il s'arrêta et retira ses lunettes. Et je pus voir que son regard était brouillé. Puis il remit ses lunettes et ses yeux devinrent sombres. Votre père était l'un de mes meilleurs amis. Et je ferai ce que je pourrai pour vous sauver. Mais il n'y a qu'un seul moyen et il faut que vous plaidiez la folie. Je bondis sur mes pieds, fou de rage. J'avançai les mains pour le saisir à la gorge. Sur le revers de ma main droite, il y avait une grande tache écarlate. Je frissonnais et cachai ma main derrière mon dos. « Vous croyez que je suis coupable ? » criai-je. « Et vous vous dites un des meilleurs amis de mon père ? Les preuves sont accablantes, » fit-il doucement, « sauf pour le mobile. »« Le mobile ? » Et je sus que mon moment de triomphe était arrivé. « Il n'y avait pas de mobile !» C'est là que je vais les avoir, et vous aussi, si vous croyez que je l'ai assassiné. Les fous n'ont pas besoin de mobile, reprit-il. Je veux bien admettre, pour vous faire plaisir, que vous croyez honnêtement avoir vu la femme que vous avez décrite. Je veux bien admettre que vous ne vous souvenez pas d'avoir tiré sur Spencer. Mais vous n'êtes pas normal, mon garçon. La maladie qui a ruiné la vie de votre mère, il ne termina pas et se leva pour partir. Je plaiderai la folie. Lorsque vous serez traduit devant le tribunal. Et je le démentirai, déclarai-je, en donnant un grand coup de poing sur la table. Je prouverai que je ne suis pas fou. Si vous le faites, vous vous enverrez à la chaise électrique, dit-il tristement. Il s'en alla, et je restai des heures allongé sur ma couchette, à réfléchir. La tache de sang sur ma main commençait à m'énerver, et je fermai les yeux pour chasser la vision de ce long et étroit passage bordé de barreaux au bout duquel se trouva une chaise. Mais en vain, finalement, je m'endormis. Lorsque je me réveillais, je sentis qu'un profond changement s'était opéré en moi. Je vis clairement la route à suivre pour me sauver. Tous me croyaient coupable, même mon propre avocat. Je leur prouverai leur erreur, et le prouverai avec des faits concrets. Je commençai par demander à voir Garonne. Il vint dans ma cellule et s'assit en face de moi. Son visage crayeux était sans expression. « Je ne vous ai pas appelé pour passer aux aveux. » Commençais-je. « Je sais que vous croyez que j'ai menti à propos de la femme que j'ai vue passer devant ma porte et à propos du coup de feu unique. Je sais que la tache de sang sur ma main et la découverte du silencieux qu'on suppose mien seront des preuves terriblement accablantes devant le tribunal. Je sais tout cela, et pourtant, je vais vous demander de me sauver. Vous pouvez le faire parce que vous êtes intelligent, et je ne crois pas que vous voudriez faire du tort à un innocent. « Merci, dit-il. Tout d'abord, il faut que vous teniez pour réel mon histoire de la femme. Vous n'avez pas besoin d'y croire vraiment, mais vous devez faire semblant d'y croire. Vous devez agir comme si vous vouliez me sauver plutôt que m'accuser. Je comprends. Une seule question, continuai-je avec confiance et enthousiasme. L'attitude de Garonne était des plus encourageantes. Vos hommes ont-ils trouvé trace de la femme? Avez-vous découvert quelque chose? Non, fit-il. S'il y avait une femme, elle n'a pas quitté l'hôtel ce soir-là. Et il n'y avait pas une seule femme dans tout l'hôtel, correspondant à la description que vous avez donnée. Pas même une domestique, ajouta-t-il. Je suis certain de cela. Et personne touchant l'hôtel de près ou de loin ne se souvient qu'une femme ressemblant à votre description y soit entrée cette nuit-là. Peut-être n'était-elle pas dans l'hôtel lorsque vous l'avez fouillée. Peut-être était-elle déjà partie. Elle a pu partir dans les 5 minutes qui ont suivi le moment où je l'ai vue. « Et comment ? » demanda-t-il. « Elle n'est pas nécessairement sortie par une porte. Il y a des escaliers de secours, suggérai-je. Il est facile de sauter les derniers échelons sur le sol et derrière l'hôtel. Au moins 2 de ces escaliers de secours débouchent sur une rue adjacente. J'ai vu la femme descendre en courant du 6e étage, c'est le mien, et si elle s'est vraiment enfuie par un escalier de secours, ça a dû être du 5e étage ou plus bas. » Tous les escaliers de secours ont une fenêtre sur chaque palier. « Je n'avais pas pensé à ça, » admit-il franchement. « À vrai dire, lorsque vous avez vu le sang sur ma main, vous avez été tellement convaincu de ma culpabilité que vous n'avez rien tenté de sérieux pour retrouver la femme, sinon de faire garder les issues. Maintenant, en supposant toujours qu'il y avait une femme, si la femme a ouvert une fenêtre et emprunté un escalier de secours, elle a pu laisser une trace quelque part, et naturellement, elle était obligée de laisser la fenêtre ouverte derrière elle. Bien entendu. » Une expression étrange passa lentement dans les yeux de Garonne, mais je ne pus la déchiffrer. Or, nous ne devons pas oublier qu'une femme est gênée dans ses mouvements par ses jupes, soulignai-je avec vivacité. Elle a peut-être dû se cramponner à l'embrasure de la fenêtre pour se hisser. Vous ne voyez donc pas. Il y a une chance pour qu'elle laisse une traînée de sang sur le cadre de la fenêtre. Durant 1 minute ou plus, Garonne se borda à me regarder fixement. Et si nous supposons tout cela, dit-il enfin, nous devons naturellement oublier la tache de sang sur votre main. Non, ne l'oubliez pas, m'exclamai-je. Souvenez-vous-en. Et rappelez-vous aussi que j'ai essayé d'arrêter la femme. Je lui ai même attrapé les poignets. Elle m'a glissé entre les doigts comme une couleuvre et repoussé contre le mur. Si. J'étais maintenant très agité par le succès de mes déductions. Si elle avait du sang sur la main, ce fait expliquerait la tache de sang sur le revers de la mienne. Je n'avais pas pensé à ça, dit de nouveau Garonne. Vous n'avez pensé à rien de tout ça parce que dès le commencement, vous m'avez cru coupable. Un changement subtil s'était opéré sur le visage de Garonne. Je me demandais si je l'avais convaincu. Vous avez le droit de penser, dit-il au bout d'un moment, que nous n'avons pas poussé nos investigations aussi loin que nous aurions dû le faire. Maintenant, croyez-moi, j'irai jusqu'au bout. Il faut fouiller la chambre de Spencer, le pressai-je. Il faut la fouiller de nouveau. Quelque chose a pu vous échapper si la femme, par chance, avait perdu un mouchoir, un bijou, enfin, un petit objet. Il approuva de la tête. Une fièvre de folie s'était emparée de moi, mais c'était une folie de soulagement. Garonne m'avait cru. Il s'en alla. Et pendant des heures, me sembla-t-il, je restai assis à regarder fixement la tache écarlate sur le revers de ma main droite. Garonne revint à la nuit. À sa vue, je sautais presque sur les barreaux de ma cellule. « Alors ? » demandai-je. Sur le rebord de la fenêtre du quatrième étage, s'ouvrant sur l'escalier de secours, me dit-il, j'ai trouvé des marques et des éraflures qui ont dû être faites par quelqu'un se hissant pour sortir, mais la chose la plus importante, c'est la fenêtre qui était ouverte. Par le plus grand des hasards, continua-t-il, l'escalier de secours a été repeint tout récemment. Sur la peinture fraîche se détachaient des traces sans erreur possible de pas, des pieds de femme. La rue adjacente, sous l'escalier de secours, est pavée. Il est donc impossible de dire si quelqu'un s'est laissé tomber les derniers échelons sur le sol. « Mais les empreintes de pas, » m'exclamai-je, « elles doivent indiquer si la femme montait ou descendait. »« Elles indiquent qu'elle descendait. » J'ai également trouvé sur l'un des côtés du cadre de la fenêtre, à peu près au niveau où l'on doit s'y agripper, « une tache de sang !» criai-je. C'était trop beau pour être vrai. Enfin, j'allais être débarrassé de cette vision d'un long passage étroit avec au bout une chaise. Après un moment, je dis « Merci, mon Dieu !» Cela ressemblait à une tache de sang, corrigea Garonne de sa voix posée. Une petite tache. J'ai découpé le bois sur lequel se trouvait le sang et l'ai envoyé à un expert pour examen. Et s'il déclare que c'est du sang ? Votre histoire commencera à sembler plausible, reconnut Garonne. En attendant et devant votre insistance, j'ai de nouveau fouillé la chambre de Spencer minutieusement. Il s'arrêta et je remarquai un rétrécissement de ses yeux profondément enfoncés et brillants, un serrement de ses lèvres. Et j'ai trouvé ceci. Il étendit la main d'un geste négligent. Dans sa paume reposait une épingle de cravate, un rubis entouré de perles. Je me rendis compte que c'était le point crucial. Il avait essayé de me duper. Je savais que si je portais la main à ma cravate, un des grooms m'a reconnu cette épingle comme vous appartenant. À moi ? Je fus surpris de la calme froideur de ma voix. Non, j'en ai une identique. Vous la trouverez quelque part dans mes affaires en cherchant bien. Je pris l'épingle dans ma main. « Où dans la chambre de Spencer l'avez-vous exactement trouvée ?»« À l'opposé de l'endroit où nous avons trouvé le corps, tout à l'autre bout de la chambre. Elle était tombée près d'une fenêtre, la fenêtre par laquelle le revolver a dû être lancé. C'est la seule fenêtre surplombant le toit, et elle était ouverte. »« J'ai l'impression que ce doit être l'épingle de cravate de Spencer, » dis-je en la regardant attentivement. « Je la lui ai vue porter. » Ou bien celle de Spencer était-elle une perle entourée de rubis ? Je ne me rappelle plus. Mais je ne pense pas que cet indice ait une valeur quelconque en ce qui concerne la femme. Si c'est votre épingle de cravate, jeta Garonne, si l'on peut prouver que c'est la vôtre, ce sera le dernier maillon qui manque à la chaîne des preuves. Vous n'auriez alors aucun moyen de vous en tirer. C'est juste, accordai-je, et j'ébauchai un sourire. J'ai acheté mon épingle de cravate à un rubis entouré de perles chez Tiffany. Peut-être y a-t-il un registre des ventes. Je l'ai payé très cher. Voulez-vous faire des recherches de ce côté? Et maintenant, parlons du revolver muni du silencieux. Si je comprends bien, la police peut prouver que le revolver avec lequel a été tué Spencer, celui qui fut trouvé sur le toit, est celui que j'ai acheté et payé avec un chèque. Oui. J'admets que j'ai acheté un revolver de ce genre-là, il y a quelques mois, et que je l'ai payé avec un chèque. Je venais de me rendre acquéreur d'un vaste domaine dans le Connecticut, un endroit solitaire et isolé. Je le possède toujours. C'est très loin de la gare, et quelquefois, lorsque je m'y rendais inopinément, je devais faire le trajet à pied. Le vieux couple de gardiens qui s'en occupe m'avait suggéré d'acheter un revolver pour me protéger pendant ce long parcours. Lors d'un voyage là-bas, ma valise me fut volée dans le train. Dans cette valise se trouvait mon revolver, naturellement. « Continuez, » fit Garonne. « Il y a pas mal d'autres revolvers de cette sorte, » poursuivais-je. Ils se ressemblent tous et n'ont pas de numéro matricule. C'est ce qu'on m'a dit lorsque je l'ai acheté. Si la femme est venue à l'hôtel pour tuer Spencer, et si elle savait qu'il existe des revolvers munis de silencieux, n'est-ce pas évident qu'elle aussi a pu en acheter un ? Au bout d'un long moment, Garonne acquiesça de la tête. Il y a trois choses qu'il faut que vous fassiez, continuai-je rapidement. Premièrement, recherchez dans mes affaires et voyez si vous retrouvez mon épingle de cravate. Si vous ne la trouvez pas, allez chez Tiffany et vous aurez la certitude que j'ai acheté une épingle identique. Deuxièmement, allez chez l'armurier où j'ai acheté le revolver, je crois que la firme n'a qu'un seul dépositaire dans New York, et voyez si un tel revolver a été vendu à une femme. Troisièmement, retrouvez la femme qui a laissé la tache de sang sur ma main, la femme dont les empreintes de pas descendent l'escalier de secours. Vous savez qu'il y a une femme, il faut qu'elle soit retrouvée. Le lendemain, je reçus un mot de Garonne. J'ai retrouvé votre épingle de cravate dans vos affaires. On l'a reconnue chez Tiffany comme étant celle que vous avez achetée chez eux. Trois jours plus tard, un télégramme arriva pour moi. Il venait d'une petite ville située à 60 milles au nord de New York. D'après analyse, tache sur cadre, fenêtre et sang humain, Garonne. Une semaine se passa. Garonne ne m'avait plus donné signe de vie. Où était-il, me demandai-je, et que faisait-il dans cette petite ville? Le matin du 11e jour, Garonne arriva. Je frappai frénétiquement les barreaux à sa vue. Le gardien le fit entrer. Il se laissa tomber sur ma couchette et resta assis sans parler jusqu'à ce que les pas du geôlier se fussent éteints dans le lointain. Il tira alors de sa poche un petit paquet enveloppé de papier. Il l'ouvrit et tendit un gant de femme. J'essayai de réprimer le cri qui m'échappa. Je voulus saisir le gant. « Ne le touchez pas !» commanda-t-il sèchement. « Il y a des taches de sang dessus. Ces taches ne doivent pas être brouillées. Votre vie en dépend. Vous avez trouvé la femme ?»« Oui, je l'ai trouvée, » dit-il. Je suis arrivé à la découvrir grâce à une photographie que j'avais vue sur la table de nuit de Spencer. Le portrait d'un petit garçon, un bébé, fait par le photographe d'une petite ville du nord de l'État. Je me suis rendu dans cette localité et trouvé le photographe, lequel m'a dit qui était le petit garçon, la femme et la mère de l'enfant, et Spencer son père. Le fils de Spencer? Je ne pouvais y croire. Je ne savais pas Spencer marié. Il ne l'a jamais été, fit Garonne gravement. C'est toujours la vieille histoire. L'enfant est né et Spencer s'y est attaché. Il a servi à la mère une pension généreuse et elle et son fils ont vécu paisiblement dans cette petite ville. Elle est connue là-bas sous le nom de Mrs. Rosa Warren, une soi-disant veuve. « Mais le gant ? » demandai-je. « Où l'avez-vous trouvé ? Que dit la femme ? Où est-elle maintenant ?»« Elle est arrêtée, » m'annonça Garonne. Elle reconnaît qu'elle s'est rendue dans la chambre de Spencer à la requête de ce dernier cette nuit-là. Elle m'a montré la lettre dans laquelle elle lui donnait rendez-vous. Ce devait être une dernière entrevue avant son départ à lui pour un long voyage. Ou elle l'ignorait. Il allait faire virer une somme d'argent à son compte. « Pourquoi l'a-t-elle tué ? » demandai-je. J'ai été plus calme depuis qu'un faisceau de preuves convergeait sur la femme. L'histoire qu'elle raconte sur ce qui s'est passé dans la chambre de Spencer est incroyable, déclara Garonne. Elle frappa la porte, prétend-elle, et il n'y eut pas de réponse. Elle ouvrit et entra. La pièce était plongée dans l'obscurité. Elle entendit un bruit et se rendit compte que quelqu'un se trouvait dans la chambre. Elle essaya de trouver le commutateur, mais ne se souvient pas avoir touché Spencer. Elle ne savait pas qu'il y avait du sang sur son gant. Puis, il y eut un coup de feu, celui que vous avez entendu. Elle crut que Spencer voulait la tuer. N'oubliez pas que c'est son histoire. Et se précipita dans le couloir pour se sauver. C'est alors qu'elle vous tomba presque dans les bras. Vous l'avez saisie, elle se débattit pour se libérer et descendit en courant deux étages. Mais se rendant compte que l'alarme serait donnée, et pour éviter une publicité embarrassante, décida de passer par une fenêtre et par l'escalier de secours et de descendre par ce chemin. Les anciennes douleurs se déchaînèrent dans mon cerveau. Je me levai et trinis ma tête à deux mains et tombai la face contre terre. Garonne me porta jusqu'à ma couchette. Au bout d'un long moment, il continua le reste de son histoire. Maintenant, naturellement, nous connaissons le mobile de crime. Elle avait aimé cet homme, il avait abusé d'elle, il allait partir, peut-être pour toujours. Chez l'armurier, un employé s'est souvenu qu'un revolver muni d'un silencieux avait été vendu à une femme, mais il est douteux qu'on puisse l'identifier après si longtemps. Bien entendu, elle nie avoir acheté un tel revolver. Et puis il y a le gant. De nouveau, Garonne l'éleva en l'air. Je me tournai sur ma couchette et le regardais fasciné. « Je l'ai trouvé chez elle, » m'expliqua Garonne. « Elle n'avait pas essayé de le cacher, pas même de le nettoyer. Il me semble que c'est tout. Je crois qu'elle fera des aveux. » Il m'aurait laissé envoyer à la chaise électrique. Grognai-je. Je fus cité devant le magistrat chargé de l'affaire qui me fit remettre en liberté. La femme avait fait d'autres déclarations compromettantes et, en dépit de ses protestations, fut maintenue en état d'arrestation. Les preuves contre elle étaient complètes. Je me souviens simplement des derniers mots du juge qui me libéra. Un détraqué qui, par la simple astuce de sa folie, a fait tomber le réseau de preuves dressé contre lui et a prouvé la culpabilité d'une femme, laquelle est maintenant arrêtée. Le prisonnier est relaxé. Deux jours après ces événements, je ne sais quoi me contraignit à me rendre chez un chirurgien fameux. Je lui tendis ma main droite. « Voulez-vous, je vous prie, amputer cette main au poignet ?» demandai-je. Il me regarda fixement comme on regarde un fou. « Vous amputez ? » répéta-t-il. « Pourquoi ? Elle est couverte de sang, et ça ne veut pas partir, » lui dis-je. « Ça commence à m'énerver. » Mr. Howard Meredith, dont la déclaration est reproduite ci-dessus, se suicida 4 jours après sa mise en liberté. Une deuxième déclaration écrite fut trouvée serrée dans sa main, elle disait « Il n'est pas juste qu'une femme meure sur la chaise électrique. La vérité est que j'ai tué Frank Spencer. Je lui ai tiré dans le dos et j'ai cru qu'il était mort. Aussi ai-je jeté le revolver par une fenêtre. Il avait raconté que j'étais fou. Je considère donc mon acte comme justifié. Il a tiré sur la femme, dans le noir, croyant que c'était moi. J'ai acheté la deuxième épingle de cravate à Miami. Elle allait avec celle que j'avais achetée des années auparavant chez Tiffany. Je ne sais laquelle des deux a été retrouvée dans la chambre de Spencer. On m'a vraiment volé ma valise dans le train, mais le revolver se trouvait dans ma poche. Garonne est un imbécile, ainsi que le juge qui m'a fait remettre en liberté. » C'était « Je sous-signais déclare » par Jacques Futrelle.